Nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et il est 17h30 en temps universel. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide en direct de Washington, ravi de vous retrouver pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer dans cette édition. Une délégation américaine attendue à Niamey la semaine prochaine après que le Niger a dénoncé un accord de coopération militaire. Au Togo, nouveau vote des députés pour ou contre la nouvelle constitution. Le Kenya entame 3 jours de deuil national après la mort du chef des armées. Appels internationaux à la retenue après une attaque contre l'Iran imputée à Israël. Une délégation américaine est attendue la semaine prochaine à Niamey, indique la télévision publique nigérienne. Cette visite intervient alors que le régime du général Abdulrahman Tchani vient de dénoncer un accord de coopération militaire avec Washington. Mohamedou Oumfa.
La délégation américaine de haut niveau se rendra la semaine prochaine à Niamey pour faire le point de la coopération et faire des propositions concrètes à la partie nigérienne afin de mieux envisager l'avenir, a affirmé la télévision dans un compte rendu d'une visite à Washington du premier ministre Ali Mahamane Lamine Zène. Dans la capitale américaine où il est arrivé mardi, M. Lamine Zène a rencontré des responsables du département d'État. Le renforcement des relations diplomatiques et économiques, commerciales et technologiques a notamment été abordé selon la télévision. Concernant la coopération militaire, le Premier ministre a réitéré la décision souveraine du Niger de demander le départ de toutes les forces étrangères, américaines comprises, indique la télévision publique. Les États-Unis ont suspendu l'essentiel de leur coopération, y compris militaire, avec le Niger après le coup d'État et ont renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. En mars, le Niger a dénoncé l'accord de coopération militaire signé en 2012 avec les États-Unis, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington.
Au Togo, le projet de nouvelle constitution de nouveau sur la table des députés. Les parlementaires sont réunis depuis la mi-journée ce vendredi pour examiner en seconde lecture le texte controversé qui divise le pays depuis fin mars à 10 jours des élections législatives et régionales. Lionel Gaïma.
Les députés sont présentement en session et pourraient adopter le texte aujourd'hui. Ils avaient déjà adopté le 25 mars la nouvelle constitution qui ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Mais le président Faure Gnassingbé avait demandé qu'il procède à un nouveau vote devant le tollé provoqué par cette réforme qualifiée de coup d'État constitutionnel par l'opposition qui y voit un moyen pour le président à la tête du pays depuis 2005, de se maintenir au pouvoir. La constitution actuelle ne lui laisse la possibilité de briguer qu'un dernier mandat en 2025. Si la nouvelle constitution est adoptée, il revient au Parlement togolais d'élire le président de la République qui sera privé de toutes prérogatives pour un mandat unique de 6 ans. Au terme du nouveau texte dont l'intégralité n'a pas été rendue publique, le pouvoir résidera entre les mains d'un président du Conseil de ministres, sorte de premier ministre désigné par les députés en charge des fonctions régaliennes. Son mandat doit être de 6 ans sans qu'il soit précisé s'il sera renouvelable ou non.
Au Burundi, une journaliste détenue depuis 5 jours par les services de renseignement a été inculpée pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour aversion ethnique, des poursuites passibles de la prison à perpétuité. Sandra Muhoza, 42 ans, travaille pour la Nova Burundi, média en ligne réputé plutôt proche du pouvoir. D'après ses proches, Madame Muhoza a été arrêtée samedi dernier pour des propos tenus dans un débat WhatsApp sur une présumée distribution de machettes aux Imbos. Ngarure, membre de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ses avocats et sa famille accusent les services secrets burundais de lui avoir infligé des sévices corporels lors de ses interrogatoires et affirment que la journaliste a été interrogée les yeux bandés et menottée dans le dos pendant des heures. Interrogée par les médias, les autorités n'ont pas donné suite. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo a lancé à Goma aujourd'hui un appel urgent à plus d'assistance pour des millions de personnes affectées par les conflits. Les besoins sont immenses et ils dépassent ce qu'on est en mesure de fournir, a déclaré Bruno Le Marquis, qui était accompagné durant sa visite à Goma du groupe des ambassadeurs des pays donateurs en RDC. Selon lui, au quatrième mois de l'année, seulement un peu plus de 15% des ressources nécessaires pour porter assistance à 8,7 millions de Congolais, principalement dans l'Est, sont mobilisés. Le montant total du plan d'assistance humanitaire pour 2024 s'élève à 2,6 milliards de dollars, a précisé Bruno Le Marquis. Le Kenya a entamé ce vendredi 3 jours de deuil national après la mort dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de 9 hauts responsables militaires, John Lyndon.
Dernier hommage, titré en première page le quotidien Daily Nation. Âgé de 61 ans, Francis Omondi Okola avait été nommé à la tête des armées le 29 avril 2023 par le président William Ruto. Le bilan tragique de cet accident avait été annoncé jeudi soir par le chef de l'État à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité kényan qu'il avait convoqué en urgence. 2 militaires ont survécu au crash. Un éminent général 4 étoiles est tombé dans l'exercice de ses fonctions et au service du pays, avait poursuivi M. Ruto. L'hélicoptère s'est écrasé jeudi en début d'après-midi dans la région reculée de Sindar, à environ 400 kilomètres de Nairobi. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour tenter d'établir les causes de l'accident. Des médias kényans ont indiqué qu'il s'agissait du 5e accident d'hélicoptère militaire en 12 mois, les appareils étant souvent vieux et mal entretenus. Selon le président Ruto, les hauts gradés étaient à bord d'un hélicoptère Bell UH-1B, un type d'appareil développé dans les années 50 et largement utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam.
Dans son rapport 2024, publié aujourd'hui, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime appelle à prendre des mesures urgentes pour démanteler les réseaux de trafic de drogue qui alimentent l'instabilité dans les pays du Sahel, également devenue une région de consommation. Le faible état de droit facilite l'expansion de l'économie de la drogue, qui peut à son tour fournir des ressources financières pour maintenir ou intensifier les conflits, notamment par l'achat d'armes, avertit l'organe onusien en nommant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays dirigés par des régimes militaires ou des groupes armés, notamment djihadistes, contrôlent de vastes pans de territoire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs pays et organisations appellent à la désescalade au lendemain de l'attaque calibrée attribuée à Israël contre l'Iran. La communauté internationale redoute une guerre totale. Rosine Mounezero.
Plusieurs explosions ont été signalées tôt vendredi dans le centre de l'Iran que des responsables américains cités dans des médias aux États-Unis ont attribué à Israël en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre son territoire le week-end dernier. L'Iran avait lancé plus de 350 projectiles, missiles et drones en direction d'Israël, qui ont presque tous été interceptés. Les Israéliens ont choisi de riposter à l'attaque de Téhéran sans tenir compte des mises en garde de Washington et d'autres dirigeants mondiaux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré vendredi que les États-Unis n'ont pas été impliqués dans cette opération. Les appels à la désescalade lancés par les dirigeants mondiaux ont de nouveau été entendus vendredi. La Chine dit s'opposer à toute action visant à aggraver les tensions au Moyen-Orient. La France a appelé tous les acteurs à la désescalade et à la retenue. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont appelé toutes les parties à empêcher une nouvelle escalade. Le G7 continuera à travailler dans cette direction, affirme-t-il dans le communiqué final publié à l'issue de leur réunion de 3 jours sur la petite île italienne de Capri.
Par ailleurs, l'Iran a qualifié ce vendredi d'irresponsable et de non constructif le vote des États-Unis bloquant la candidature palestinienne à l'adhésion à part entière à l'ONU. 12 pays ont voté jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un projet de résolution recommandant l'adhésion palestinienne à part entière à l'ONU. Les États-Unis, le principal allié d'Israël, ont opposé leur veto à cette demande, tandis que la Grande-Bretagne et la Suisse se sont abstenus. Les pays de l'OTAN sont d'accord d'abord pour envoyer à l'Ukraine davantage de systèmes de défense antiaérienne, dont des batteries de Patriot, a indiqué ce vendredi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à l'issue d'un conseil entre les ministres de la Défense de l'Alliance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucun engagement formel n'a toutefois été donné lors de cette réunion tenue en visioconférence, a affirmé de son côté un diplomate de l'OTAN. L'Ukraine réclame avec insistance l'envoi par ses alliés de systèmes de défense antiaérienne, dont des batteries de Patriot les plus efficaces contre les missiles hypersoniques russes qui frappent depuis des semaines les villes et les infrastructures ukrainiennes. Le juge au procès historique de Donald Trump espère conclure ce vendredi le laborieux processus de sélection de jury pour entrer dans le cœur du dossier dès lundi prochain. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Banque mondiale a annoncé réviser à la hausse son programme d'électrification en Afrique, visant 250 millions de personnes d'ici à 2030, contre 100 millions prévus initialement. L'annonce a été faite à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. L'institution va apporter 5 milliards de dollars et la Banque mondiale compte lever 15 milliards pour ce programme de 30 milliards. La Banque africaine de développement espère de son côté raccorder 50 millions de personnes d'ici à 2030. En Côte d'Ivoire, 4 nouveaux permis de recherche pour l'or ont été octroyés à des entreprises pour une durée de 4 ans. Tchologo Exploration a obtenu un permis pour les départements de Niakaramandougou et Korogo. Okresarle pour les départements de Zouenoula, Vavoua et Kounaïri. Smart Mineral Explorer et Glory Gold Ressources ont obtenu un permis pour 6 autres départements. Petrofac a signé un contrat de 350 millions de dollars sur 5 ans avec GPetrol, la société pétrolière nationale de Guinée équatoriale, pour la gestion du bloc offshore B qui abrite le champ de Zafiro, produisant 90 000 barils par jour. L'accord comprend la maintenance, l'ingénierie des puits et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, entre autres services. L'entreprise britannique fournira aussi une assistance pour une unité flottante de stockage.
Et maintenant, la page sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Balle au panier pour commencer, les matchs de la Basketball Africa League saison 4 se poursuivent ce vendredi avec les rencontres de la Conférence du Nil.
Oui, ces matchs ont eu lieu au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire du 19 au 27 avril. 4 clubs, Al Ahly d'Égypte, Haute City Oilers de l'Ouganda, Al Ahly de la Libye et Bangui Sporting Club de la République centrafricaine se lancent à l'assaut des deux premières places qualificatives directes pour les play-offs prévus à Kigali au Rwanda. En match d'ouverture, deux clubs novices, Al Ahly de la Libye et Bangui Sporting Club, étaient aux prises. Victoire des Libyens, 93-71. Présentement, l'équipe hôte et championne en titre, Al Ahly, affronte les Ougandais des City Oilers. Des rencontres que vous pouvez suivre à la radio sur les antennes de la VOA, partenaire de cette Basketball Africa League depuis sa toute première édition en 2021.
Football en salle avec les demi-finales de la CAN Futsal au Maroc.
Oui, avec le soutien de son public de la salle Ibn Yassine de Rabat, le Maroc fait face à la Libye qui fait preuve de beaucoup de détermination dans cette compétition. Dans l'autre demi-finale, l'Égypte tenante du titre et l'Angola qui veut créer la surprise vont se disputer une place en finale. Les finalistes et l'équipe classée troisième vont représenter l'Afrique au Mondial de Futsal, prévu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
Julian Nagelsmann prolonge avec la Mannschaft.
Oui, le sélectionneur de l'Allemagne en poste depuis fin septembre 2023 va rester en poste jusqu'au Mondial 2026 ici aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le contrat initial de Julian Nagelsmann, âgé de 36 ans, à la tête de la sélection allemande, allait jusqu'à l'Euro 2024 à domicile. Les résultats de la Mannschaft ont commencé à s'améliorer lors de la fenêtre de mars avec des choix forts imposés par Nagelsmann. grand artisan du retour sous le maillot de la Mannschaft de Toni Kroos. Les victoires en France 2-0 et contre les Pays-Bas 2-1 ont redonné de l'espoir aux supporters allemands à moins de 3 mois du match d'ouverture de l'Euro 2024 à l'Allianz Arena de Munich contre l'Écosse.
Merci bien, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 19 avril 2024. Jacques Aresti toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Le journaliste français Thomas Dietrich, qui travaille pour la revue en ligne Afrique 21, a été expulsé mardi dernier du Togo. Un tribunal de Lomé l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de séjour sur le territoire togolais et environ 916 euros d'amende pour y être entré illégalement. Mais Reporters sans frontières condamne le traitement brutal et arbitraire infligé au reporter au lendemain de sa publication sur X d'une vidéo dans laquelle il qualifiait le régime du président togolais Faure Gnassingbé de dictature. Pour en savoir davantage, Mohamedou Oumfa a joint le journaliste Louis Magloire Kemayou, président du club de l'information africaine.
Je pense qu'elle se produit dans un environnement. L'expulsion de Thomas Dietrich arrive dans un contexte où on a l'impression que le pays est en ébullition, mais en réalité, il est entré illégalement dans le pays. Quand, pendant que son dossier était en train d'être traité en vue de lui accorder le visa, il se trouve qu'il a fait une publication sur X et que pour des raisons liées au contexte politique, mais pas que, les autorités ont estimé que son entrée illégale ajoutée à son comportement pendant qu'on traitait son dossier ne permettait pas qu'on lui accorde l'accréditation qu'il a sollicitée pour son travail de journaliste. Je pense que c'est le seul journaliste qui a subi ce cas de figure-là, mais cela appelle, je peux comprendre, à s'interroger sur la façon dont les journalistes sont traités au Togo, mais il est évident que si on entre illégalement dans un pays, que ce soit le Togo ou pas, on a vocation à être expulsé.
Mais il se trouve quand même qu'on a l'impression quand même qu'il y a un problème entre les journalistes et la presse étrangère et les autorités et le Togo en ce moment. Rappelons que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a annoncé lundi la suspension provisoire de toutes les accréditations pour la presse étrangère. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que j'en pense, c'est que le cas de Thomas Dietrich a dû probablement faire durcir les règles de traitement des demandes d'accréditation. Le Togo est un pays souverain, il gère ses relations avec la presse internationale comme il l'entend et surtout qui applique sa loi comme il l'entend. Cela dit, les correspondants qui sont déjà sur place continuent leur travail. Aucun d'eux n'a été expulsé, qu'il s'agisse de celui de VOA, qu'il s'agisse de celle de TV5 Monde ou d'autres médias qui sont en train d'opérer sur le terrain. Pour le moment, il n'y a pas de panique à bord et j'espère que cela durera encore longtemps.
Tout à l'heure, vous avez parlé de contexte. Rappelons que des élections législatives et régionales sont prévues le 29 avril, dans un climat assez tendu. Est-ce que la presse ne subit pas les conséquences de ce climat de tension? Est-ce que globalement, les journalistes travaillent librement au Togo?
Il y a eu quelques cas ces derniers mois de journalistes qui ont été attaqués en justice par des personnalités plus ou moins proches du gouvernement. Cela ne signifie pas qu'il y a une cabale contre les journalistes. Il y en a même un qui a dû quitter le pays. Mais encore une fois, ce n'est pas du fait des autorités du pays.
Louis Magloire Kemayou, directeur de la chaîne de télévision New World Economy à Lomé, au Togo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Bénin, la répression des infractions du code de la route provoque tensions et polémiques. Depuis le coup d'envoi au début du mois d'une opération liée au port du casque obligatoire. Elle a même donné lieu à des affrontements entre membres du public et forces de l'ordre, dont des agents ont été limogés ou sanctionnés. À Natitingou, dans le nord du pays, 4 policiers ont été écroués pour avoir roué de coups un usager de la route pour non-port de casque. Ginette Fleur Adande, notre correspondante à Cotonou, nous propose ce micro-trottoir.
Nous implorons bien les forces de l'ordre de ne pas créer du désordre dans les interpellations, bien dans cette phase de répression. De bien vouloir encore sensibiliser, si possible, les citoyens, afin de pouvoir leur montrer la bonne valeur qu'ils veulent impliquer aux divers citoyens. Apporter le casque, quelque chose qui va pour une autre sécurité à tous. Personne n'est content, ni n'est heureux de voir son parent décédé pour un non-port de casque.
Je pense que la population béninoise doit comprendre, essayer de comprendre l'optique dans laquelle le gouvernement est et se dire, voir le bon côté des choses et ne pas forcément se dire que voilà, c'est l'argent, les policiers veulent, mais ça c'est très bien. C'est ce que la plupart d'entre eux se disent. Maintenant, par rapport aux policiers, je dirais d'être un peu indulgent. Moi, je dis indulgent, pas sur le port de casque, mais de savoir comment faire passer le message aux usagers. Parce que pour beaucoup, c'est qu'eux, ils sont là pour prendre l'argent. Et qu'ils sachent, je ne sais pas par quelle stratégie, mais qu'ils sachent comment ils doivent faire passer le message sans se faire passer pour des oppresseurs.
Il ne faut pas vouloir sanctionner et aller encore au-delà de ce qu'on a fait. Nous sommes tous au-dessous de la loi. Et les citoyens aussi, c'est des gens, c'est des personnes. Et c'est pas parce qu'on est force de l'ordre qu'il faut exercer son pouvoir sur la population. C'est pas la population que eux aussi sont là. Donc, moi, je pense qu'ils devraient revoir un peu leur manière de traiter les gens, leur manière d'arrêter les gens. Parce que l'autre fois, par exemple, ils ont arrêté quelqu'un et le gars, vraiment, c'était pas la manière dont il fallait le faire.
Je pense qu'on ne devrait pas aller aussi vite. Il faut passer par la sensibilisation, vous savez. Nous sommes des humains et l'être humain n'aime pas qu'on fasse pression sur lui. Si le gouvernement était beaucoup plus passé par des sensibilisations, c'est vrai qu'il y a une période qui a été laissée aux citoyens. Ils ont été avertis depuis un bon moment. Mais je pense qu'il n'y a pas eu un travail de terrain pour vraiment sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter le code de la route et où de porter un casque. C'est ce qui explique le fait, cette frustration qui s'observe au niveau de la population.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participer à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et de discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
Des millions de personnes au Malawi sont confrontées à de graves pénuries alimentaires en raison des conditions météorologiques. C'est le PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui a tiré la sonnette d'alarme. Jenny Niwa nous en dit davantage.
L'ONG Oxfam a récemment affirmé que plus de 20 millions de personnes sont confrontées à la faim et à la malnutrition en Afrique australe en raison de la sécheresse. Ces derniers mois, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont successivement déclaré l'état de catastrophe nationale à cause de la sécheresse qui a plongé des millions de personnes dans la faim. Témoignage Fanny Kunkoma, une fermière.
Cette année, la saison agricole a été mauvaise car les précipitations ont été irrégulières et nous avons été touchés par des vers, ce à quoi nous ne nous attendions pas. En conséquence, toutes les cultures ont échoué et le jardin qui produisait jusqu'à 50 sacs, 50 kg, ne m'a donné que 2 sacs.
La grave sécheresse en Afrique australe qui a durement frappé les récoltes est principalement due au phénomène El Niño, qui peut avoir une incidence sur les précipitations et les températures à l'échelle planétaire. Le directeur adjoint du PAM pour le Malawi, Simon Denner, précise.
Le PAM a besoin d'au moins 70 millions de dollars américains pour nourrir environ 2 millions de personnes pendant 3 mois.
Marie Nayeja est une fermière.
Nous avons planté avec les premières pluies et immédiatement après, il y a eu une période de sécheresse et les cultures ont flétri. Lorsque les deuxièmes pluies sont arrivées, nous avons planté à nouveau et certaines cultures ont survécu. Les cultures qui ont survécu plus tard ont été infectées par des vers et ont produit des épis de mauvaise qualité.
El Niño, qui est un cycle de réchauffement et de refroidissement se produisant le long de l'équateur dans l'océan Pacifique, a débuté mi-2023 et pourrait durer jusqu'au mois de mai prochain, accentuant la probabilité de sécheresse sévère.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président américain Joe Biden souhaite tripler les droits de douane sur certaines importations d'acier en provenance de Chine, car il estime qu'elles nuisent injustement à l'emploi aux États-Unis. Il a exprimé ce vœu devant des travailleurs lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, un des États au cœur de la campagne présidentielle. Scott Stearns s'est penché sur le sujet. Dilidico raconte.
Le président Biden a déclaré aux sidérurgistes de Pennsylvanie qu'il protégerait leur emploi contre les importations chinoises bon marché.
Les prix sont injustement bas parce que les entreprises sidérurgiques chinoises n'ont pas à se soucier de faire des bénéfices car le gouvernement chinois les a fortement subventionnés.
Joe Biden a promis de s'opposer à la concurrence déloyale de la Chine, qualifiant Pékin de xénophobe. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jiang, estime que les accusations de xénophobie sont hypocrites.
La Chine a pris connaissance des informations pertinentes et la Chine aimerait demander « Parlez-vous de la Chine ou des États-Unis eux-mêmes ?»
Les actions de Joe Biden contre l'acier chinois viendraient s'ajouter aux tarifs douaniers fixés par son prédécesseur Donald Trump, qui a imposé une taxe de 25% sur l'acier chinois. L'équipe de campagne présidentielle de Donald Trump a déclaré à la VOA « La campagne de M. Biden attaque les droits de douane effectifs du président Trump sur la Chine, alors que la Maison-Blanche de M. Biden prévoit de mettre en œuvre des droits de douane similaires. » La campagne de M. Trump a ajouté « L'équipe de M. Biden est soit dirigée par des hypocrites, soit par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. » Selon Rachel Ziemba, du Centre pour une nouvelle sécurité américaine, l'une des différences entre les candidats réside dans le fait que Trump a utilisé les droits de douane de manière plus générale pour influencer les nouveaux accords commerciaux.
Ils utilisaient les droits de douane en partie comme moyen de pression pour y définir l'aspect commercial des choses. Aujourd'hui, l'administration Biden utilise les droits de douane, elle essaie de les cibler, mais elle utilise également la politique industrielle et d'autres incitations pour essayer d'encourager la production américaine, d'encourager les entreprises étrangères et américaines à investir aux États-Unis.
Les sidérurgistes de Pennsylvanie représentent un vote important dans un État qui pourrait faire basculer l'élection en faveur d'un des candidats. La campagne de Joe Biden a diffusé cette publicité mettant en scène Jojo Burgess, un ouvrier sidérurgiste de Pennsylvanie.
En ce moment, nous avons le président le plus pro-travailleur américain que nous ayons jamais eu dans l'histoire de ce pays. Donald Trump se soucie d'une personne et d'une seule, et c'est Donald Trump.
Lors de la grève de l'automobile l'année dernière, Donald Trump a fait campagne pour obtenir le vote des syndicats en déclarant aux travailleurs que les réglementation de l'administration Biden constituait une attaque contre leur emploi.
L'industrie automobile est en train d'être assassinée et ce que vous obtenez ne fait aucune différence. Je me fiche de ce que vous obtiendrez dans les 2, 3 ou 5 semaines à venir. Ils fermeront leurs portes et construiront leurs voitures en Chine et ailleurs.
Un sondage réalisé par NBC News au début de l'année a révélé que les électeurs des ménages syndiqués préfèrent Joe Biden à Donald Trump, mais avec une marge plus faible que lors de leur face-à-face en 2020.
Et voilà Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 avril 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée, un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.